Chapitre 13. Promesse de survie. Une routine s'est presque installée. Chacun a pris ses marques, ses habitudes, ses réflexes. Aucun magasin dans le périmètre autorisé à Rémy, tant l'endroit est perdu. Pour ne pas avoir à justifier cette interdiction de circuler dont dépend son maintien en conditionnel, il a inventé une absence de permis en brodant sur le fait qu'il a toujours habité en ville ou à proximité, qu'il fait beaucoup de vélo, qu'il se débrouille ainsi. Il s'imagine un quotidien sans voiture, lui qui aime tant les destinations lointaines et les routes désertes la nuit. Lui qui a souvent pris des risques, et ce jusqu'au jour J. Le dernier avant de tout rendre, son véhicule, ses clés, son permis, sa liberté. Clémence se porte mieux loin de l'agitation des villes. Elle n'aime pas les supermarchés, les rayons où l'on se croise en se frôlant. Elle se porte mieux loin des gens. Au sens perdu, elle savoure la rareté des interactions sociales. Toujours privée de racines, elle commence à construire quelques repères avec ses nouveaux tuteurs. Tout paraît simple avec Adrien. Capucine est douce. Elle reste réservée avec Karine, qui n'a pas encore trouvé la bonne longueur d'onde pour capter ses ultrasons. Ce que Rémy semble réussir. Comme s'il devinait ce dont elle a besoin. Comme s'il comprenait ce qu'elle ressent. Comme s'il était une seconde peau sur sa silhouette fragile. Elle pourrait vivre cela comme une intrusion, la présence d'un parasite. Elle l'accueille comme une armure. En est émue. Un bouclier musclé, tatoué, protecteur, qui lui manque cruellement depuis qu'elle est enfant. Et puis, il dégage une part de mystère qui donne envie d'en savoir plus. Un cliffhanger à la fin d'un chapitre. Pour la première fois, Clémence aimerait en apprendre davantage sur quelqu'un. Ce jeune homme est un livre qui s'est ouvert sous ses yeux et elle n'a pas envie de le refermer. Karine a proposé de s'occuper des courses. Elle a besoin de ses shoots de civilisation, de rayons pleins, de 3 pour le prix de 2. L'opulence la rassure. Même s'ils ne sont pas de marque, elle trouve toujours un t-shirt ou un foulard à glisser dans son caddie pour étoffer sa garde-robe et se changer les idées. Au diable, la décroissance, elle fait marcher le commerce mondial. Chacun dispose d'un budget, ils décident ensemble des achats nécessaires à la communauté et elle déduit ensuite ses écarts sur le ticket de caisse. Elle se débrouille toujours pour ranger seule les courses. La veille au soir, ils ont partagé une boisson chaude autour d'un feu allumé au milieu du jardin, entre deux grosses pierres disposées en cercle. La nuit sans lune les enveloppait de sa couverture épaisse et sombre. Aucun éclairage public dans ces hameaux perdus. Clémence s'était assise à côté de Rémy. Karine bavardait pour combler le vide de l'obscurité, couvrir les sons qui auraient pu l'inquiéter. Par moments, le silence des hommes laissait le bois libre de crépiter, les grenouilles de chanter, les houppiers des grands arbres sombres de frémir. Un cri puissant a déchiré l'obscurité. Clémence a tremblé sans le montrer. Karine a sursauté en demandant de quel animal il s'agissait, s'il était loin, dangereux, affamé. Les trois autres ont souri. « Sûrement un blaireau. Il a bien plus peur de toi que toi de lui. » Alors qu'on l'avait entendu à plusieurs centaines de mètres, Karine se retournait régulièrement pour scruter le noir profond du champ derrière eux, à la recherche de deux étincelles. Adrien a expliqué qu'on était plus en sécurité la nuit au milieu de la forêt qu'en ville. Karine n'a pas voulu le croire. Puis, il a observé Capucine du coin de l'œil, assise à ses côtés, le regard perdu dans les flammes, le sourire un peu triste comme si elle tentait de participer tout en étant ailleurs. Il lui a pris la main, a chuchoté « Quelque chose ne va pas ?» Elle est revenue à la réalité en lui souriant plus généreusement, a esquivé la question en proposant d'aller faire une balade en forêt lors de la prochaine lune. Ils se sont amusés des virulentes protestations de Karine. Puis Adrien a enchaîné. « Nous partons pour 3 journées intenses. Elle s'annonce radieuse du côté du ciel et odieuse pour vos muscles et la paume de vos mains. Vous allez découvrir certaines parties de votre corps que vous ignoriez, sauf Rémy, je pense, et vous me détesterez un moment. Mais c'est pour la bonne cause. Les chèvres arriveront bientôt, il nous faut du foin pour l'hiver. Vous me pardonnerez quand nous dégusterons nos bons fromages. Et faire les foins vaut toutes les salles de sport. Abonnement gratuit !» Karine et Clémence se sont regardées, inquiètes. « Adrien exagère, a temporisé Capucine. La période des foins est aussi un moment de partage agréable. Paul et Jeannot, nos voisins, viendront aider en cas de nécessité. Une occasion pour vous de croiser d'autres visages. Dès leur arrivée dans la maison 2 ans plus tôt, ils ont pu bénéficier de la solidarité du voisinage. Tous les villages alentours sont éclatés en dizaines de hameaux disséminés entre les langues de forêt qui s'avancent dans les champs. De vieilles bâtisses aujourd'hui rénovées, érigées alors que les hivers étaient rudes, les conditions de vie difficiles. L'entraide est une valeur qui s'est construite en même temps que les murs. Paul et Jeannot ont été particulièrement présents, attentifs, généreux. Le matin de ce premier jour de foin est radieux. Adrien et Rémi prennent leur petit déjeuner aux aurores sur la terrasse. La rosée s'évapore avec les premiers rayons, en même temps que le café fume dans les tasses. Un repas silencieux fait de fromage et d'œufs. Une énorme tranche de pain complet, une poignée de camerise et les premières amélanches. De l'énergie pour nourrir les forces qui vont se déployer. Il faut partir le plus tôt possible. La barre de coupe a été préparée la veille, à l'arrière du tracteur, pour commencer les premières parcelles sans perdre de temps. Adrien guettait la météo agricole depuis une semaine. Tous les paysans du coin vont faucher. 3 journées parfaites s'annoncent, brûlantes et venteuses. Ils pourront déjà faner une première fois en début d'après-midi. 6 hectares à couper en une matinée. Faudra pas chômer. Rémi a posé 1000 questions la veille autour du feu. Il souhaite apprendre à piloter le tracteur, à gérer les machines, le bras de force, le releveur, la fourche avant. Il a envie de cambouis sur les mains, de moteurs qui tournent et de vérins qui coulissent. Adrien commencera à piloter en lui expliquant les commandes. S'ils n'ont pas pris de retard, il lui laissera la main dans le dernier champ. Rémi intègre les informations. Il comprend rapidement les consignes. Une aubaine. Les 3 femmes se sont retrouvées autour de leur petit déjeuner. Clémence peine encore à avaler la moindre bouchée avant midi. Karine la taquine chaque matin. « Tu picores comme un poussin !» Une noisette par-ci, 2 cuillères à café de yaourt par-là. Capucine se surpasse pourtant avec des viennoiseries, toutes plus appétissantes les unes que les autres. Brioche, chinois, cake au citron, au chocolat. Clémence ne prélève que les miettes sur le bord du plat. Parfois, elle accepte un lait chaud avec un peu de cacao. Elle touille doucement dans la tasse brûlante puis observe le tourbillon d'insouciance que forment ses souvenirs d'enfance. Tout le monde essaie de la motiver, presque trop. On l'a déjà assez embêtée à l'hôpital. Qu'on lui fiche la paix avec la nourriture du moment qu'elle trouve la force de faire face au quotidien. Rémi se demande d'où elle tire son énergie. Lui a besoin d'une collation le matin et d'un goûter l'après-midi, pour ne pas tourner de l'œil entre les repas ou disparaître en lui-même, emporté par une tornade de vide au creux de son ventre. Depuis sa sortie, il dévore. La liberté donne faim. Clémence tient. Elle se lève le matin, bêche, nourrit, balaie, sarcle, cueille, frotte, sans défaillir. Ses tâches quotidiennes sont devenues un repère. Une façon de structurer ses journées, de se sentir exister. Le rêve un peu fou du docteur Letellier se dessine peu à peu. La bonne volonté œuvre. L'appétit de Clémence, tel un petit animal, se réveille par moments après des années d'hibernation et gigote dans son estomac comme s'il creusait son terrier. Cette minuscule créature l'effraie. Et si elle devenait incontrôlable? Et si Clémence tombait sous son emprise? Et si elle ne faisait plus que manger, 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 elle prendrait des fesses, des seins, des formes, un creux de rein. Elle deviendrait pulpeuse, comme Karine, qui aime qu'on ne regarde qu'elle. Clémence ne veut pas être un objet de désir, un butin, une proie. Capucine a saisi un stylo et un bloc-notes. Elles prennent le temps d'élaborer les menus des jours à venir pour tout préparer à l'avance. Elles doivent pouvoir participer au fanage et à l'endénage en cas de défaillance des machines. Tout doit être prêt ce soir, au plus tard demain avant midi, pour ne plus avoir à se soucier de l'alimentation. Salade composée, tourte maison, quiche aux légumes, pain et fromage, dessert réconfortant. Une fois le programme établi, elles se munissent de passoires, de cajots, de couteaux et partent à l'assaut du potager. Clémence cueille des radis. Elle observe le collet, juste au-dessus de la surface de la Terre, qui permet de deviner le degré de croissance. Cependant, chaque prélèvement reste une surprise. Le radis sera-t-il long et fin, gros et rond? D'abord déstabilisé à l'idée de ne pas savoir à quoi s'attendre, pire d'en choisir un encore trop petit, elle finit par se prendre au jeu et les range par taille et par forme. Certains sont grignotés par des vers, d'autres par des mulots. Elle s'en émeut. Capucine la rassure. Dans un jardin en permaculture, on ne fait pas contre, on fait avec. Trop de mulots? Il faut favoriser les prédateurs. Les rapaces en sont, mais ils risquent d'attaquer les poussins. Les chats sont efficaces également, mais ils aiment les oiseaux, les lézards, les chauves-souris, qui, eux, sont utiles pour se débarrasser des insectes. Il faut chercher l'équilibre en tout. Dans la constitution du sol, dans les populations qui y vivent, dans ce qu'on consomme et ce qu'on rend. Tu peux laisser sur place des fans de radis trop abîmés, elles enrichiront la terre. Nous ferons un potage avec les plus belles, en ajoutant de la menthe et des orties. Tu verras, c'est délicieux. Clémence tressaille. Des orties. Comment avouer, sans paraître ridicule, qu'elle en a une peur bleue, qu'elle les fuit comme la peste? Capucine est déjà repartie vers la cabane de jardin en quête de gants épais et d'un sécateur, ainsi que d'un seau propre. En contrebas du potager, la haie en abrite une énorme touffe d'un vert puissant. Elle montre à Clémence comment s'y prendre, ne choisir que les 4 à 6 feuilles de tête sur des pieds qui n'ont pas encore fleuri. Il faudra ensuite les recouper dans une passoire pour les séparer des minuscules tiges qui pourraient piquer le palais. Clémence reste en retrait, incertaine et tremblante. L'envie étouffée par la peur, comme une fleur sous le liseron envahissant. Tu devrais aller mettre un pantalon épais avec un jean et des gants, tu ne craindras plus rien. Capucine la voit trottiner vers la grange avec un entrain qui témoigne du soulagement. Elle s'en réjouit et prend le temps de regarder autour d'elle en attendant son retour. Karine a désormais passé le stade de s'inquiéter pour l'état de ses ongles. Elle s'échine à sortir quelques pommes de terre nouvelles en fouillant dans le sol à pleine main sous le pied encore vigoureux, comme on le lui a montré, pour ne prélever que les plus grosses, laisser aux autres le loisir de se développer. Ses gestes témoignent d'une hargne et d'une volonté que Capucine reconnaît. Elle aussi a mis sa colère dans les coups de masse, de pioche, dans les brouettes de terre retournées, dans les pierres déplacées, dans les ronces fauchées. Les débris de son passé ont fini au compost en même temps que les mauvaises herbes. En fouillant la terre, Karine enfouit au passage les souvenirs dont elle veut se débarrasser. En comblant les trous et en ratissant pour laisser la plate-bande régulière, elle comble ses failles et fait place nette à la surface de sa propre terre. Si le processus a fonctionné pour Capucine, il agira pour d'autres. Elle ferme les yeux pour sentir le vent puissant sur sa joue, respirer la chaleur de l'air ambiant, entendre le bruit du moteur dans les champs, en contrebas, et imaginer Adrien au volant. L'herbe est coupée pendant que les cœurs se recousent. Elle aime la période des foins. L'électricité de ces quelques jours intenses où l'homme se confronte aux lois de la nature, où il se réjouit quand tout est enfin rentré à l'abri comme une promesse de survie pour un hiver rigoureux. Elle s'accorde une bouffée d'espoir, croise les doigts afin que ce qui la soucie et qu'elle ne peut avouer à personne cesse de s'aggraver.